ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence. Nous sommes en direct aujourd'hui. Nous recevons Maxime Pomerleau. Maxime Pomerleau, c'est quelqu'un d'extrêmement dynamique. On se croise de temps en temps en studio et quand elle vient, elle a toujours des combats, elle a des choses à dire. Alors je vous la présente, mesdames, messieurs, avant de commencer l'entrevue avec elle. Elle a fait des études au Cégep de Jonquière en art et lettres, volet cinéma, communication. Puis ensuite, elle fait un profil de production théâtrale. En 2005, elle entame un baccalauréat en animation, recherche culturelle à l'UQAM. Elle s'oriente vers l'organisation d'événementiel. Ensuite, elle fait une série. Elle est pigiste en communication. Elle est impliquée d'ailleurs comme productrice également. Et elle a animé, mesdames, messieurs, vraiment à peu près à une centaine de radios. Alors j'en nomme quelques-uns. Choc, Sim. Et de 2008 à 2010, elle a été dans nos studios. Elle l'est encore de temps en temps. À Canal M, on la reçoit tout de suite après ça. Maxime Des Pomerleau, merci d'être en studio avec nous. Vous aimez ça, hein, le studio?
Oui, je me sens à l'aise aussi.
C'est une centaine de radios, des chroniques un petit peu partout. C'est une passion?
Oui, j'aime beaucoup le milieu des médias. Mm-hmm. Puis, c'est... Pardon, même moi, je n'avais pas installé mon micro de la bonne manière.
C'est ça. Il faut mettre la main devant.
Ben oui. Je suis un peu déstabilisée vu que normalement, mon rôle, moi, c'est d'interviewer les gens habituellement. Donc,
ça déstabilise, ça.
Oui, c'est ça. Je suis moins à l'aise de ce côté-ci du micro. Oui, c'est mon parcours dans les médias, en fait, a commencé beaucoup en radio puis en écrivant sur le web. D'abord sur la scène punk, puis sur la scène locale musicale québécoise et montréalaise, surtout. Donc, j'ai collaboré, justement, je réalisais et j'animais des émissions à Choc, à l'UQAM, puis à CISM, à l'Université de Montréal. Puis ensuite, justement, j'ai collaboré à d'autres, d'autres radios, puis entre autres Canal M.
Oui, tout à fait, une invitée. Alors, avant que les choses avancent pour vous, dans le temps, vous étiez petite fille?
Oui.
Et puis une petite fille pas comme les autres, tout à fait dynamique, qui a eu un parcours qui n'était pas évident. On va le dire, vous êtes en fauteuil roulant, ça n'a pas été facile. Racontez-nous comment ça a commencé. Est-ce que dès que vous étiez enfant, vous avez eu des problèmes? La maladie s'est installée de quelle manière?
Moi, la maladie que j'ai s'appelle le syndrome McEwen-Albright. C'est une maladie génétique très rare. Donc, c'est de naissance, en fait. Et la différence, c'est que ce n'est pas héréditaire. Donc, c'est vraiment, si on veut, un accident de la nature. C'est quelque chose sur un chromosome qui ne fonctionnait pas bien.
Donc, de naissance.
Oui, de naissance. Sauf que ce n'est pas quelque chose qui est détectable, nécessairement. Donc, c'est arrivé plutôt autour de 18 mois que mes parents... se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes, qu'on est allé chez le médecin et donc que le diagnostic a été fait. Et ça affecte la structure osseuse, les os sont plus mous et c'est un désordre endocrinien aussi. Entre autres, la glande thyroïde qui fait des siennes. C'est quelque chose qui est quand même assez répandu dans la population, l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie. Il y a beaucoup de gens qui ont ça. Mais moi, ça affecte vraiment ces deux aspects-là. Très tôt, il avait prévenu mes parents que j'aurais des fractures, qu'on devrait avoir plusieurs séjours à l'hôpital aussi. J'ai pris des hormones pour retarder ma croissance le plus rapidement possible parce que un des symptômes, c'est que ça cause une puberté précoce. Moi, j'ai eu ma poussée de croissance, j'avais 6 ans. Donc, j'étais dans les plus grandes de la classe.
Donc, ça veut dire les seins et tout, là?
Oui, oui, c'est vraiment un tout. En fait, c'est l'élément déclencheur, si on veut. L'indice premier, ça a été que j'ai eu mes règles très, très, très jeunes. Donc, c'était quelques petites gouttes de sang, si on veut, dans la couche. Alors, évidemment, tout parent qui découvrirait ça paniquerait un peu. Donc, c'est là qu'ils sont allés consulter, puis que le diagnostic a sorti à ce moment-là.
Est-ce que vous marchiez
oui.
à ce moment-là?
Oui. Comme tous les enfants, en fait, j'ai vraiment fait mes premiers pas comme tout le monde. Je marchais un peu. La première fracture, je l'ai eue un peu avant d'avoir 3 ans. Puis c'est probablement un des souvenirs les plus lointains que je conserve, mais et c'est vraiment anodin. Hein. C'est une chute dans la cuisine quand mon père faisait semblant de courir après moi en faisant le monstre, chose que j'aimais beaucoup faire quand j'étais enfant. Puis je lui avais demandé de faire le monstre, puis là, finalement, ça a mal tourné. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, il y a eu des fractures quand même à répétition à chaque année, quelque part entre 3 et 7 ans. Il y en a eu de nombreuses. Puis ensuite, on a commencé plutôt à regarder du côté des chirurgies, puisque là, ça se déformait beaucoup à chaque fois qu'il y avait une fracture. Ça affecte toute la structure osseuse du corps, mais moi, c'était beaucoup les jambes qui étaient affectées principalement. Donc, mes fractures se sont concentrées là beaucoup.
Et alors, qu'est-ce que ça fait comme enfance? Est-ce que vous êtes à ce moment-là consciente? Vous me dites, bon, je me rappelle quand mon père me courait après et tout ça, parce que j'aimais ça. Mais est-ce que vous êtes consciente que là, ça ne marche pas? C'est le cas de le dire. Mm-hmm. Les jambes ne vont pas bien. Il y a la différence qui s'installe par rapport aux autres ou il n'y a aucune conscience?
Non, il y a la conscience... Par rapport à mon corps, ça, c'est certain. Je comprenais qu'est-ce qui se passait. Je comprenais pourquoi est-ce que je devais être à l'hôpital quand même des longs séjours, pourquoi on faisait des petites chirurgies, en fait, pour pouvoir me mettre en traction, puis ensuite des petites chirurgies pour me mettre dans le plâtre pour que là, je puisse revenir à la maison. Puis le plâtre, c'était des grands spicas, ce qu'ils appellent, fait que c'est vraiment en dessous du... c'est sur le torse jusqu'au bout des orteils. Mmh. Donc, on est vraiment comme dans une chaise longue pendant une couple de semaines. J'avais l'école à la maison à ce moment-là. Moi, j'ai un plus jeune frère. Il a 3 ans de moins que moi. Donc, pour lui aussi, c'est... Ben, forcément, en fait, toute la famille est mobilisée quand quelque chose comme ça arrive. Oui. Donc, je me souviens que je me sentais très coupable aussi de
ah,
ça.
Oui?
Ouais, même si c'était pas quelque chose qui...
Ah, c'est intéressant. Donc, vous sentiez coupable? Pourquoi?
Parce que je comprenais que tout le monde était mobilisé. Je comprenais que mes parents manquaient du travail pour venir à l'hôpital aussi, que mon frère a quand même un peu écopé. Ça, c'est des choses qu'on réalise vraiment
oui,
plus
parce
tard.
Que le frère, finalement, c'est un petit peu comme ça que ça se passe et qu'on donne beaucoup, beaucoup d'attention à la sœur.
Exact.
Puis on l'oublie. On l'oublie, donc ça, lui, il sent un petit peu isolé, c'est ça?
Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, j'avais cette impression-là. Je sais qu'il était quand même aimé et très, très entouré, là. Sauf que la réalité reste quand même qu'on met plus d'énergie sur forcément l'enfant qui est blessé,
ben
qui
oui,
est malade.
Il y a un oiseau blessé, donc il faut s'en occuper. Il
ouais,
faut lui
voilà.
faire un bon nid et,
voilà,
et
temps,
le soigner.
Le temps qu'il se répare.
C'est ça.
Fait que ça, c'est des... Ça, c'est des sentiments que je vivais. Puis j'avais aussi le fait d'avoir été souvent, fréquemment à l'hôpital, d'avoir eu des bons séjours. C'est qu'on se retrouve dans un milieu d'adultes. Donc, je pense que j'ai réfléchi rapidement d'une manière adulte, même si j'étais quand
oui,
même
parce
un enfant.
Oui, parce que la conscience, vous m'en parliez, elle est venue tôt, la conscience.
Mm-hmm.
La conscience de ne pas être comme les autres.
Mm-hmm.
Puis de se sentir coupable, c'est quand même tôt, là.
Oui.
C'est
Ah,
jeune.
Oui, très jeune.
Parce
début
que,
du primaire.
Normalement, on pense plus à l'autre un petit peu plus tard, quoi.
Oui, tout à fait.
Alors vous, c'est arrivé comme ça. Puis vous êtes retiré assez rapidement de l'école. Donc là, c'est l'école à la maison. Est-ce que c'est votre mère, votre père?
Non, mais c'était une professeure, en fait, qui venait. Puis c'était uniquement pendant les périodes de convalescence. Ce qui arrivait chaque année, pratiquement. Par contre, dès que c'était possible, je réintégrais la classe pour reprendre, puis aussi parce que l'école, c'est un lieu de socialisation aussi.
Mm-hmm.
Donc, c'était quand même quelque chose qui était très important pour tout le monde. Je pense que je puisse que je puisse avoir la vie la plus normale possible. Mais je sais que j'ai manqué des périodes. J'ai fait la moitié de ma maternelle parce que je me suis brisé une jambe. Donc, c'est quand même une réalité qui était là. Puis c'est certain que moi, je m'ennuyais de mes amis quand j'étais à l'hôpital, mais il y avait toujours un genre de contact quand même avec la classe. Ils faisaient des cartes de prompt rétablissement, puis moi, je faisais des dessins, je leur envoyais, ou je me souviens que je devais avoir l'air un peu trash des fois pour les infirmières puis les médecins, mais on comptait le nombre d'agrafes qu'on enlevait de ma cicatrice. Puis là, il y en avait 29, puis là, je nommais un nom pour chaque étudiant qui était dans ma classe parce qu'on était 29 dans la classe.
Ouf.
Fait que ça, je sais pas, c'était ma manière probablement de...
Mais je trouve pas ça très trash, moi.
Garder contact.
Je trouve ça vraiment avoir une belle pensée, quand même. Si vous êtes dans la souffrance, puis vous dites, bon, ben, chaque agrafe, c'est un de mes camarades, c'est,
ouais,
c'est beau.
Ouais.
Mais quand vous dites trash, parce que c'est parce qu'il y a eu des coups de gueule donnés un petit peu aux gens qui vous aidaient, parce qu'il y avait une espèce de violence ou pas du tout?
Non, je pense pas, mais c'est peut-être juste... en même temps, je dis trash en le regardant de mon œil maintenant. Tu sais, moi, c'était très naïf au moment où ça arrivait. Mais comme quand je recevais des cartes de prompt établissement, justement, moi, ma carte de merci, c'était de me dessiner couché sur la table d'opération avec des médecins, les lumières, puis le sac de sang qui coule. Je me dis normalement. Je sais pas. Ce qui vend dans la pharmacie, ça a plus des papillons puis des ballons. Puis là, moi, je me dessine inconsciente sur une table d'opération. C'est peut-être un peu surprenant, mais...
Mais c'était un peu vous.
Mais
c'était complètement
fait,
vous,
en fait,
dans
c'est
le fond.
Ça. C'était moi. Puis c'était probablement, justement, peut-être une manière aussi d'extérioriser...
Mais de dire ce qui vous arrive, au lieu de dire, justement, les papillons. Ben là, moi, j'ai pas les papillons, là. J'ai toutes sortes de choses autour de moi, sauf des papillons, là.
Ouais, c'est ça. Puis c'est comme, c'est ça que j'ai fait pendant 6 semaines. Donc voilà ma réalité.
Alors, vous savez quelle émission choisit, c'est vous qui choisissez les chansons. Mmh. Et on demande toujours pourquoi.
Oui.
Alors vous avez choisi Arcade Fire.
Oui.
Ready to Start.
Oui.
Pourquoi?
Arcade Fire, c'est un groupe que j'associe vraiment profondément à Montréal et à mon arrivée ici. Moi, j'ai emménagé à Montréal en 2005 pour commencer l'UQAM. Puis, c'est un groupe qui me suit, si on veut, dans vraiment différentes étapes de ma vie. Et cette pièce-là, particulièrement, c'est tiré de leur album The Suburbs, qui est le troisième album. Et cet album-là est comme arrivé en 2010, je pense, qui est sorti 2010-2011. Je l'ai beaucoup écouté. Je sortais d'une période où j'avais eu beaucoup de problèmes de santé aussi, beaucoup de fractures, des chirurgies, des programmes de réadaptation. Puis là, je partais en voyage. Je l'ai comme amené dans mes bagages avec moi. Puis cette pièce-là en particulier m'obsède quand je suis dans une période de doute par rapport à des projets. Je trouve que dedans...
Parce que vous êtes une artiste, alors tout artiste doute.
Oui, c'est omniprésent dans ma vie.
C'est fatigant, mais c'est...
Oui, ça fait partie
c'est essentiel, non?
Oui, je pense que ça fait partie de l'élan artistique. Puis donc, je trouve que cette pièce-là a vraiment tout ce qu'il y a de sentiments de doute, mais le petit kick que ça prend pour y aller. Donc c'est,
alors, on écoute. C'est ça. On écoute. Emperor wears no clothes, but they bow down. Maxime Despomerleau est avec nous en studio. Alors, vous avez déclaré que vous ne reconnaissez pas dans les images qu'on fait des handicapés.
Mm-hmm, tout à fait, qui sont véhiculés dans les médias. Je développe.
Oui, tout à fait.
Oui.
Parce que c'est exactement, je vous ai cité,
oui.
Je vous ai lu, parce que sinon j'aurais peut-être des personnes handicapées, mais là vous avez dit ça. Pourquoi?
Je trouve que généralement... Les personnes handicapées sont dépeintes d'abord par leur handicap ou par leurs conditions et par leurs limitations. Et c'est surtout, je trouve que c'est un portrait négatif, souvent, qui est mis de l'avant. Par contre, ça dépend toujours aussi des sujets de reportage ou les nouvelles ou ce qui passe, là, si je fais plus référence à la télévision, par exemple. Mais même dans les journaux aussi, c'est comme... On va parler, on va décrier une situation où, et c'est normal, dans ce cas-là, de mettre l'accent sur le problème ou sur la limitation. Sauf que ça ferait du bien, je pense, dans les médias, de voir des personnes handicapées qui travaillent, qui ne sont pas qu'en CHSLD, qui ne sont pas que sur l'assistance sociale, ou qui sont dans une situation de dépendance constamment. Mm-hmm. On montre peu des gens qui sont quand même autonomes, qui sont en complet, qui vont travailler dans le cœur économique de Montréal, ou qui sont enseignants.
Ou même des élus, des politiciens.
Tout à fait, il y en a. Et déjà c'est tellement difficile de se rendre à ce poste-là. Ils ont peu de couverture médiatique. Mais donc, pas que ça me répulse, mais c'est ça, je me sens pas concernée quand je vois ou quand je lis des portraits comme ça. Puis c'est quelque chose que j'essaie de changer, que je me dis que j'ai la chance d'avoir des tribunes qu'on m'offre comme celle d'aujourd'hui.
Mm-hmm.
Donc, mon discours peut peut-être faire changer un peu
On a besoin de ce
la
discours.
Perception des
On a
des
besoin
gens.
D'un discours qui est différent aussi. Parce que vous brassez les choses et on a besoin de ça.
Mm-hmm.
Est-ce que vous avez toujours été comme ça, étant adolescente? Je ne sais pas, ça dépend des gens, mais des fois, c'est très dur à l'adolescence. Vous, c'était comment?
Je vais réussir à formuler une phrase. Là, j'ai un micro. Je suis dans les médias. Pour moi, c'est comme un travail, si on veut, à chaque fois que je prends la parole, et même quand j'en faisais, qui était plus en lien avec la musique ou d'autres types de chroniques. Mais sinon, de manière générale, dans la vie, j'étais assez low profile. Puis, c'était comme ça au secondaire aussi. Puis même à l'université, en fait, je vais prendre ma place dans un groupe, je vais faire des choses, mais ça sera pas dans un contexte comme dans la classe ou quelque chose. Il fallait vraiment me nommer pour que je parle.
Qu'on vous pointe, quoi.
Ouais, qu'on me pointe et qu'on m'oblige à parler. J'ai toujours détesté les cours au cégep et à l'université qui mettaient des pourcentages sur la participation en classe. Je les avais pas, ces points-là, parce que j'aimais pas ça. Je suis pas si à l'aise que ça. Je vais être à l'aise de m'exprimer quand je vais connaître, tu sais, comme il faut, un dossier ou un sujet, que je vais avoir quelque chose à dire. Mais sinon, au secondaire, j'ai tout le temps eu cette critique-là par rapport à ce discours-là, par rapport à l'image justement des personnes handicapées qui est véhiculée dans la société. Mm-hmm. Je parle des médias, là, parce que je trouve qu'ils ont une responsabilité par rapport à...
Tout à fait.
À la construction qu'on se fait.
À l'image, bien,
ouais,
bien
à
sûr.
L'image. Bien sûr. Mais par rapport à la société, j'ai tout le temps été critique par rapport à ça aussi. Donc, probablement quand j'étais jeune aussi, quand j'étais au secondaire, mais c'est plus la sensibilisation ou des choses que je partageais avec mes amis, avec mon entourage. C'est sûr qu'en en vieillissant, en travaillant aussi, en travaillant dans le secteur culturel, dans le secteur public, ça a pris des proportions, si on veut.
Oui, puis ça a dû casser, non? Tous les préjugés. Et...
C'est difficile à dire quel impact vraiment ça peut avoir, mais je pense que oui. Je pense que je change la perception des gens, du moins ceux qui me rencontrent, au moins. Ceux avec qui je suis capable d'établir un contact. On me dit souvent que je suis facile d'approche, puis que je suis accessible, puis que les gens ont pas peur ou se sentent pas gênés de me poser des questions, incluant qu'est-ce que j'ai ou comment est-ce que je vis des choses.
Qu'est-ce qu'on vous pose comme question?
Ça dépend du groupe d'âge.
OK. Allez-y.
Oui, j'ai fait des animations dans des écoles quand j'étais au Saguenay, entre autres durant mon cégep, puis aussi un peu rendu à Montréal, où j'allais rencontrer des enfants, puis démystifier un peu, si on veut, la condition des personnes handicapées. La personne handicapée comme telle, parce que c'est très mystérieux, la personne handicapée. Et c'était en travaillant pour un organisme culturel à ce moment-là. Les enfants vont beaucoup poser des questions très, très, très terre à terre. Est-ce que tu as besoin d'aide pour t'habiller? Pourquoi tu es en fauteuil roulant là, en premier? Là, c'est la première question qui arrive. Pourquoi tu es en fauteuil? Qu'est-ce que ça fait de différent? As-tu besoin d'aide pour faire des choses? Qu'est-ce que tu fais de différent? Puis après ça, ça retombe à t'as-tu des frères et sœurs? T'as-tu des animaux? Qu'est-ce que tu manges le matin? Puis ça retombe tout de suite dans des choses que eux vont connecter, en fait.
Dans le monde de l'enfance, là,
dans
finalement.
Dans le monde de l'enfance. C'est ça. Puis, en fait, ils vont...
C'est quoi ta couleur préférée?
c'est ça. Quel métier tu veux faire? Qu'est-ce que tu écoutes comme musique avec tes amis? Puis donc, ils vont s'attarder davantage sur qu'est-ce qui nous ressemble plutôt que la différence. Fait que c'est très, très terre à terre. Puis c'est le fun parce que ça permet aussi de mettre l'accent sur justement qu'est-ce qui lie les gens davantage de qu'est-ce qui les sépare.
Et qu'est-ce qui lie les gens davantage, Maxime?
Les points communs, les intérêts beaucoup, les passions, et puis l'humour, je pense, c'est très rassembleur. C'est ça la manière de penser, de s'amuser. Puis quand on arrivait plus vieux, plus rendu au stade du secondaire, puis après, puis à l'âge adulte, là, c'est vraiment des questions qui sont davantage liées à la condition sociale. Est-ce que ça t'empêche d'avoir un travail? Comment ça se passe dans la vie amoureuse? Tu veux sortir tes lieux de socialisation après l'école? Ça, c'est la vie de travail ou c'est les bars, c'est les spectacles, c'est les cafés? C'est chez les amis. Donc, on entre plus dans cet aspect-là, tu sais, de c'est quoi les frustrations que tu vas vivre au quotidien. Et là, on embarque dans beaucoup de choses. On peut explorer vraiment beaucoup de choses. Et c'est là qu'on arrive à sensibiliser.
Est-ce qu'il y a des moments où vous dites non, cette question-là, j'ai pas envie d'y répondre?
Oui, tout à fait. Ça, c'est quand ça rentre dans des sphères intimes et personnelles, que c'est des choses que je vais partager avec mes amis et c'est tout. Mais en général, c'est. Je crois que s'il y a une question qui est posée, c'est parce qu'il y a un intérêt ou c'est parce qu'il y a un désir de comprendre aussi. Donc, j'essaie le plus possible d'y répondre. Mais c'est très rare que j'ai eu des questions où je n'ai pas répondu.
Votre fauteuil roulant est votre ami depuis combien de temps?
J'ai eu mon premier, j'avais 6 ans. Donc, c'était en rentrant à l'école primaire. Parce qu'avant, je marchais un peu, justement. Puis surtout, je continuais à marcher, en fait, sur des courtes distances, donc avec une canne. Quand j'étais plus jeune, c'était avec une marchette. Puis, arrivé dans une grande école avec beaucoup de gens, plus de circulation, c'était quelque chose qui était plus sécuritaire aussi. Donc, il m'accompagne depuis 23 ans.
23 ans.
Oui.
Est-ce que vous avez eu un moment donné où vous avez pensé à dire « c'est pas juste » maman, papa, justement à 6 ans, parce qu'on parle plus maman, papa, j'aurais aimé ça, moi, pouvoir utiliser mes jambes. Est-ce qu'il y a eu cette prise de conscience, cette rage aussi?
Oui. Quand j'avais justement 7 ans, c'est comme un âge, ça a été un âge décisif pour moi, là. C'était vraiment dans mes dernières. Ma dernière fracture importante aux jambes avant d'avoir un blitz de chirurgie qui allait pouvoir mettre des tiges de métal dans les os et donc les renforcer et tout. Puis oui, j'avais une écœurante aiguë d'être pris dans mon plâtre, puis j'étais tannée, puis j'avais demandé à mes parents, c'est comme, mais pourquoi, tu sais, pourquoi moi, pourquoi mon frère qui est un ancien athlète, là, et lui, il a fait de la course, il a joué au football, il a fait de l'athlétisme, fait que c'était comme, il en prenait pour deux, là. Pourquoi lui, il peut courir, puis sauter d'un arbre, puis sauter partout, se péter le front, puis il se passe rien, puis moi, je saute dans un tas de feuilles, puis ça peut casser. Donc oui, je l'ai eu là, ma crise.
On fait une petite pause musicale, on revient tout de suite après.
Gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Alors justement, je parlais de meilleurs amis. Vous avez déménagé, vous êtes venue à Montréal, grand projet.
Oui.
De dire je vais à l'université, je fais un chemin vers une carrière. Comment ça s'est passé ce déménagement, arrivé en ville? Les gens de l'université.
Oui, je suis partie du Saguenay à 20 ans, pile. C'était pratiquement comme 2 jours après ma fête. Puis pour revenir à Montréal pour commencer le bac en animation et recherche culturelle à l'UQAM en 2005. Puis j'avais décidé de venir à Montréal d'une part parce que j'avais besoin de partir de chez mes parents.
C'est normal.
C'était une réalité.
L'oiseau dont on parlait tout à l'heure, il doit sortir du nid quand même.
Ben oui, c'est ça, un jour ou l'autre. Et je venais de faire justement 3 ans au cégep de Jonquière en arts et lettres, en cinéma, communication et en théâtre, comme on l'a dit au début. Et là, j'avais envie d'aller explorer autre chose et surtout de sortir de ce milieu-là. Je connaissais bien le milieu culturel au Saguenay. Et j'avais envie de découvrir le milieu culturel à Montréal. Et c'est aussi une question de logistique et de pratique. Je devais venir quand même fréquemment à l'hôpital Shriners pour des traitements que j'avais.
Oui, parce que ça, il faut le dire, ça ne vous lâche jamais. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont des limitations. Bon, ça y est, ça ne bouge plus, ça va être comme ça. Ça ne s'aggrave pas, ça reste stable. Mais vous, c'est constamment rendez-vous, toujours à l'hôpital.
Oui, c'est moins fréquent maintenant, mais j'ai eu des traitements au Shriners qui étaient à toutes les 3 mois, de l'âge de 11 ans à 22 ans. C'était quand même très fréquent, puis c'était dans le but de renforcer les os, donc d'être complémentaire aux chirurgies que j'avais. Puis dans les dernières années, j'ai eu des fractures. J'en ai eu une au fémur, puis j'en ai eu une autre au bras. Maintenant, ce côté-là osseux, malheureusement, il n'y a pas de suivi. C'est très difficile quand on a une maladie orpheline aussi. Il n'y a pas de personnel particulièrement formé pour ça ou d'institution pour ça. Donc, c'est un peu difficile. C'est comme si au moment où j'ai besoin que là, je vais à l'hôpital. Mais sinon, pour le côté endocrinien, je suis toujours suivie encore.
Okay.
Donc, ça, c'est...
Alors, vous partez.
On regarde ça là-dessus. Et donc, c'était une des raisons pourquoi je venais à Montréal. C'était pour les hôpitaux aussi, pour que je puisse aller à l'hôpital le matin, mais aller à mes cours l'après-midi. Et donc, j'ai emménagé.
Parce que sinon, ça se faisait très difficilement au Lac-Saint-Jean, c'est ça?
Ben au Saguenay, moi, je devais partir, en fait, puis je venais passer carrément 4-5 jours à Montréal, donc mm-hmm. ça implique manquer des cours aussi.
Ce qui est là. Encore difficile, ça?
Oui, ce qui est pas conseillé, là, c'est
ben
ça.
Non, donc, c'est ça.
Si on peut l'épargner, on le fait.
Donc là, vous allez dans un, entre guillemets, un peu plus de confort.
Oui.
Dans le sens où vous pouvez faire les deux dans une journée.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est déjà plus agréable.
Oui, c'est une meilleure conciliation
santé-études. Tiens, c'est pas mal ça.
Si on veut. Ouais. Puis, moi, j'allais dans les résidences universitaires de l'UQAM, donc c'était le moyen le plus facile d'avoir un appartement accessible pour moi.
Je veux tout
moi.
Savoir. Vous partez.
Oui.
Vous dites, OK, ça y est, vous dites bye-bye à vos parents, mais je vous aime, je serai toujours là, mais je dois faire ma vie.
Oui, exactement.
Vous partez, vous allez dans les résidences pour les étudiants.
Oui. Puis, c'était des résidences qui étaient accessibles, en fait. Ça se disait des appartements adaptés. Puis la réalité était un peu différente. C'était pas...
Ah bon?
C'était pas parfait. Il y avait quand même beaucoup de choses à arranger. Puis c'est un des trucs que j'ai trouvé les plus difficiles en arrivant à Montréal. Ma première année est comme un peu paradoxale, si on veut. Autant ça s'est vraiment très bien fait, l'intégration à l'université. Réussir à faire tout ce que les jeunes qui partent en appart doivent faire, comme mm-hmm. gérer un budget, s'occuper de son appart, faire l'épicerie, etc., faire les études aussi, être à temps plein à l'université. C'était quelque chose que j'avais pas eu de problème à faire. J'avais travaillé tout l'été précédent aussi pour pouvoir me ramasser de l'argent en vue de cette année-là. Moi, je partais à Montréal, je connaissais personne. Il a fallu que je construise mon réseau au complet. Ça s'est vraiment bien fait. Puis je suis encore en contact avec beaucoup d'amis que je me suis fait dans mon bac. Sauf que ce que je trouvais difficile, c'était cet aspect-là de maintenant que j'étais seule aussi, c'était d'arriver, de dealer avec le transport adapté, de dealer avec le fait... J'habitais dans le centre-ville, fait qu'au moins c'était proche de l'université, mais c'était quand même difficile d'avoir accès à plein de choses. Le premier cours que j'ai eu était dans un pavillon qui n'était pas accessible.
Vous me dites ça, là. Je rage.
C'est beau, mais tu sais,
c'est incroyable.
C'est comme il a fallu que moi j'aille faire des demandes après au secrétariat.
Donc, qu'est-ce
pour
que vous
changer.
Faites à ce moment-là? Vous arrivez, vous avez, comme les étudiants, vous avez votre calendrier avec tel cours à tel local et tout. Et qu'est-ce que vous faites? Vous retournez?
Ben non, je me suis arrangée, mais après, c'est...
Mais comment vous vous arrangez? Vous demandez aux gens de vous transporter? Comment ça se passe?
Oui, mais c'était une marche là, qui empêchait, c'était une ou deux marches de béton qui empêchaient d'y avoir accès.
Mais
d'ailleurs,
quand même,
le pavillon
c'est quelque
maintenant
chose,
est modifié puis est accessible. Mais oui, c'est juste, c'est difficile. Et même, comme je disais, les résidences n'étaient pas super accessibles. Le transport adapté, ça a pris 2 mois avant d'avoir accès à que mon dossier puisse être transféré du Saguenay puis d'avoir accès à ce service-là, chose qu'ils ne disaient pas sur leur site Internet. Donc, moi, quand tu t'informes puis tu es à l'extérieur de la région, toi, tu lis des belles choses comme « Ah, vous pouvez même réserver des fois 4 heures à l'avance, puis s'il y a une disponibilité, vous allez avoir un transport », chose qui est impossible au Saguenay. Maintenant, je sais que le transport, c'est amélioré là, et c'est différent, mais là, t'arrives et tout... On te fait miroiter, en fait, cette possibilité-là d'être autonome. Et c'est ce à quoi t'aspires quand tu pars faire ta vie. Et en fait, c'est impossible, finalement. On te donne pas les ressources pour pouvoir être autonome. Donc ça, c'est très frustrant.
Alors, est-ce que c'est là, la colère sort à ce moment-là? Comment elle se fait, cette colère?
Elle se fait surtout, je rageais et je le disais à mes amis. Tu sais, je m'exprimais pas publiquement par rapport à ça, mais j'étais juste fâchée. Puis j'avais envie de juste rester et rouler en boule sur mon divan. Mais après 3-4 jours, on se tanne, puis on... Finalement, on décide de continuer à faire des choses. Là, il n'y a personne qui va venir nous prendre par la main puis arranger le problème. Donc, tu dis, ben qu'est-ce que je peux faire? Rien. Fait que tu deals avec, puis tu essaies de ne pas devenir amer.
Est-ce que Maxime Despomelo, est-ce que c'est à ce moment-là que vous êtes dit que là, je vis l'exclusion? Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez senti ça?
Oui, c'est à ce moment-là qu'on m'en mettait vraiment dans la face que j'étais handicapée. Et non pas seulement que j'avais juste... une déficience, un problème de santé qui faisait que, bon, j'avais besoin d'un fauteuil pour pouvoir me mouvoir sur des longues distances ou que je devais justement concilier la santé avec les études, avec les autres activités. Là, on me mettait vraiment dans la face. Ah ben, voilà, tu veux essayer de vivre ta vie, ben on va te donner ces ressources-là, puis deal avec, puis nous, c'est juste ça qu'on te donne, comme discours social, si on veut. Mmh. C'est ça que je recevais de la part des institutions, de la part de ce système-là qui est brisé. Ça a pris 2 ans avant de pouvoir avoir un ergothérapeute au CLSC de centre-ville. Et c'est pas parce que j'ai fait des démarches tard, là. C'est juste parce qu'il y a des listes d'attente très, très longues. Je suis pas la seule dans cette condition-là. Mm-hmm. Mais j'ai la chance d'avoir un réseau qui est très fort. Donc, d'avoir pu m'arranger facilement avec mes amis et sans les brûler aussi. C'est quelque chose, c'est une réalité.
C'est pas mal ce que vous dites, ça.
C'est une réalité qui est...
Les brûler parce qu'ils seraient toujours présents, de l'aide tout le temps.
Oui, c'est dangereux de beaucoup demander aux mêmes personnes. Et c'est un risque qu'on a, en fait, et que beaucoup de personnes handicapées ont. Et c'est pour ça qu'ils deviennent peut-être plus isolés. C'est parce que le réseau est moins fort, ou il est moins solide, ou il est épuisé.
Parce que c'est les amis qui pallient au manque d'organisation des gouvernements.
Oui, ou la famille. Puis... Moi, ce que je faisais, je trouvais le moyen de troquer. Tu sais, je fonctionne vraiment beaucoup par le troc. C'est OK, viens souper chez moi, mais il faut aller à l'épicerie ensemble avant d'acheter les choses. Tu sais, ou okay. Peux-tu m'aider à faire tel truc parce que j'ai du mal à aller ou l'hiver c'est difficile, ou j'ai besoin d'un livre, blabla. Mais, tu sais, par contre, je t'invite gratuit à aller au musée avec moi.
Il y avait un petit moment intéressant.
Oui, il y avait quelque chose quand même de cool et de social.
Alors, c'est gentil quand même. Là. Vous profitez pas trop, là.
Ben, j'essaie.
J'aime bien, vous avez dit, c'est très intéressant parce que vous avez abordé la question de pas les épuiser,
mm-hmm.
pas les brûler.
Mm-hmm.
Et ça, c'est une problématique, on n'en parle pas beaucoup, ça.
Non, c'est... c'est surtout quelque chose qui va toucher vraiment ceux qui sont aidants naturels, là, qui doivent vraiment s'occuper beaucoup d'une personne, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai pas besoin de soins personnels, par exemple, ou j'ai pas besoin qu'on fasse la cuisine pour moi ou autre chose. Mais c'est quelque chose, c'est une réalité et il y a vraiment un manque là-dedans, criant. Je veux pas m'embarquer dans comme réformer tout le système de santé. Là. J'ai pas les connaissances, puis l'expertise, puis le budget pour ça. Mais je pense qu'il y a moyen de mieux réfléchir comment est-ce qu'on s'occupe de nos personnes vulnérables, puis d'avoir une conciliation aussi, ou en fait une reconnaissance au moins envers ces personnes-là qui aident beaucoup les autres.
Alors, vous avez choisi les Ace Babies.
Oui.
Je suis pas une fille à marier.
Oui.
C'est-tu vrai, ça? Non.
Vous aussi, oui, tout à fait.
Je vous embête, je vous taquine. Mais pourquoi?
Parce que j'avais beaucoup de mal à décider les choix musicaux. J'en écoute tellement, puis ils sont tellement bonnes. Ils étaient nominés d'ailleurs au dernier Gala de la Disque en Révélation.
Mm-hmm.
J'aime beaucoup leur musicalité, j'aime leur style. Les chansons sont vraiment chouettes et en spectacle, sérieusement, c'est du bonbon. J'adore les voir en spectacle.
Maxime Day, elle vous ressemble pas un peu dans l'énergie, ces filles-là?
Je sais pas, mais en tout cas, c'est un beau compliment.
On l'écoute. Va me coucher tôt. J'arrête de boire. Vous aimez écrire, vous aimez animer, vous aimez organiser, mais il y a le mot culturel qui est complètement attaché à vous. Vous êtes une créatrice. C'est tout à fait vous, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs à l'université. C'est votre domaine, les arts.
Oui, c'est... J'ai des intérêts vraiment dans tous les champs. Là. Je lis des trucs sur la science, je m'intéresse à la politique, je me questionne en lisant des trucs sur l'économie, un paquet de trucs, mais vraiment le culturel, c'est mon dada. C'est ça, j'y reviens toujours.
Et est-ce que c'était votre rêve de travailler dans le milieu culturel?
J'ai jamais vraiment vu ça comme un rêve, là, comme plus un genre de fait accompli. C'est... Après le cégep, c'est... Ben, pas après le cégep, plutôt. Après le secondaire, c'est là que j'ai fait ma demande. C'était vraiment pour aller en arts et lettres au cégep. Puis je suis contente, ça m'a collé à la peau. J'ai vraiment découvert... j'ai commencé à vivre au cégep. J'ai découvert vraiment un milieu foisonnant, puis qui fonctionne par projet. Et ça, j'aimais ça. Ce côté-là d'adrénaline aussi, puis de... Ben, on est en théâtre, on crée quelque chose, puis on est au mois de septembre, mais il ne se passe rien, puis en décembre, on présente un truc, puis c'est ça. J'aime ça, et c'est travailler aussi, puis à l'université, puis maintenant dans ma vie professionnelle, mais c'est travailler avec des artistes aussi, travailler avec des gens qui ont des visions, qui veulent partager des choses, c'est super stimulant.
Mais ça vous nourrit beaucoup.
Oui, vraiment.
Les artistes. Puis la musique, vous aimez ça.
Oui, j'adore la musique.
Puis vous aimez tellement la musique que vous dansez maintenant? Vous êtes dans une troupe de danse?
Oui.
C'est ce qu'on m'a dit?
Oui, je suis dans une compagnie de danse qui s'appelle Corpuscule Danse. C'est de la danse intégrée. C'est un mouvement de la danse contemporaine qui combine des danseurs avec et sans handicap. Donc moi, ce que j'aime, c'est cet aspect-là d'inclusion d'utiliser en fait ma condition de personne en fauteuil roulant, puisque je me déplace principalement comme ça, pour créer quelque chose. Donc l'objet change aussi, la signification du fauteuil change. C'est plus juste un objet usuel puis pratique, c'est quelque chose qui peut devenir esthétique. Donc on peut vraiment, avec des danseurs justement qui ont pas de handicap, on peut vraiment explorer des figures ou aller très loin dans le mouvement. Ça fait un an à peine.
Comment vous aimez ça?
C'est vraiment le fun. C'est super confrontant.
Dans quel sens?
Dans le sens où c'est... je suis pas à l'aise avec mon corps, donc c'est vraiment travailler sur cette relation-là que j'ai avec lui aussi et avec les autres. Et tout simplement de comprendre aussi, là, je suis dans le début de ma carrière, si on veut. Donc, j'ai pas encore tout ce langage-là, tout ce langage corporel-là, mais par rapport à la danse, c'est encore un apprentissage pour moi. Mais c'est vraiment de regarder puis de me mettre au service aussi d'un chorégraphe. Hein. C'est pas moi qui choisis qu'est-ce que je vais faire comme mouvement ou quelle figure que ça va donner au final, quel tableau ça donne dans l'ensemble avec les autres danseurs. Donc, c'est de faire confiance aussi. C'est vraiment beaucoup de travail personnel, mais et créatif. C'est stimulant.
Un travail, vous m'avez dit, je suis pas bien dans mon corps. Est-ce qu'il y a un travail d'estime de vous-même qui est en train de grandir pendant que vous dansez? Est-ce que ça vient vous chercher de se dire, bon, ben, j'y vais, je vais tomber tous les tabous. Et puis, comment vous êtes depuis, bon, ça fait un an, là, mais depuis le premier jour jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a un travail qui a été fait?
J'espère, sûrement. Je sais pas, je pourrais pas dire jusqu'à quel point par rapport à la question de l'estime de soi ou... ouais, c'est ça, ou de la confiance, mais c'est plus, je vois ça comme une exploration. Puis quand j'ai commencé, c'est France Geoffroy, qui est la directrice artistique, qui est aussi danseuse, qui m'a vraiment invitée, qui a dit « faut que tu viennes, je veux que tu viennes essayer les ateliers ». parce qu'elle voyait quelque chose, elle voyait un potentiel qui pouvait grandir là-dedans, dans cette formule-là, et dans ce médium-là. Et je me suis dit, ben parfait, OK, moi, je suis game dans la vie. Je vais essayer. Puis si j'aime pas ça, j'en reviens pas. Puis si j'aime ça, ben je continue. Fait que, puis j'aime ça. Puis pour le moment, c'est vraiment du plaisir. Puis du travail, j'apprends beaucoup. Je suis vraiment pas au top autant que les autres danseurs de la compagnie, là, c'est certain. Mais à force de faire des spectacles, à force de monter sur scène aussi pour ça, ce que j'avais pas fait depuis que j'avais fait du théâtre, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment une autre perspective de se retrouver aussi à l'avant-plan par rapport à mon expérience professionnelle jusqu'à maintenant, qui était davantage d'organiser des choses pour des artistes qui allaient se produire. Donc là, c'est le contraire.
C'est ça. Là, vous êtes la star là, sur la scène. Et puis...
c'est spécial c'est quand même. Ouais, gérer cette attention-là aussi, c'est bizarre.
Une autre personnalité que vous portez, la créatrice de ça, Bad Will.
Ouais, Bad Will, qui est mon alter ego.
Qui est votre alter ego. Ouais. Qui est un personnage qui vous ressemble en dessin animé, et là, vous vous battez, vous êtes en train de l'écrire, c'est pour le web, mais ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet?
Plus ou moins, en fait, ça a vraiment démarré en 2008, si on veut. C'était avec mon ami Jessie Poulin, que j'ai d'ailleurs rencontré en cinéma et communication au Cégep à Jonquière. Puis, elle voulait faire un court-métrage, puis elle était au courant de mes nombreuses péripéties et problèmes avec ma condition fauteuil à Montréal. Et donc, on a décidé, si on veut, de prendre ça comme point de départ puis de créer un petit court-métrage qui allait avec beaucoup d'humour et d'autodérision c'est pour montrer une réalité. Puis donc, on me filmait prise dans la neige ou qui essaie d'allumer une lampe, un plafonnier. Puis c'est pas quelque chose que je peux faire. Et des trucs comme ça. Donc, en 2008, on avait fait ça. On l'avait diffusé à quelques personnes qui trouvaient que vraiment, c'était une bonne idée. Puis ça les avait touchés. Fait qu'on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. On a mis ça sur la glace quelques années, le temps qu'on finisse chacune de nos études, qu'on travaille dans différents trucs. Puis on l'a repris en 2012, où là, on était allé chercher une petite subvention pour refaire un meilleur court-métrage avec des moyens, avec vraiment une vraie équipe technique, professionnelle qui allait travailler avec nous, mettre de la chair un peu autour de l'os. Puis là, à partir de ce moment-là, en 2013, on l'a terminé, on l'a diffusé un peu. Il a été diffusé aussi en 2014 au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Il avait été diffusé au Festival Juste pour rire.
Mais là, il faut que ça soit une série, là. Il faut que ça soit pour la télé,
ouais,
là.
On y travaille. Et le web,
il faut
trouver
de l'argent, là, parce que c'est très intéressant, ce projet-là. c'est vous, en plus, là.
Oui, puis ce qu'on se fait dire, c'est que ça... Les médias s'y intéressent, ça touche les personnes handicapées aussi, ça touche le public. Moi, je vois ça comme un pont entre le grand public, puis, si on veut, le milieu associatif peut-être, ou les personnes handicapées, pour montrer justement, casser le moule déjà, comme je disais, de cette image-là dans les médias, amener à se questionner sur une problématique peut-être, puis réaliser quelque chose, puis, comme je dis, toujours sous le couvert de l'humour, donc... Et je trouve que le web, particulièrement pour les jeunes créateurs, les gens de mon âge, c'est une belle porte d'entrée. Donc, c'est ça que je vise.
Alors, on souhaite qu'on la voit, qu'elle soit connue. Est-ce qu'elle a les cheveux roses comme vous?
Non, normalement, elle a les cheveux rouges. Donc, quand on va faire d'autres tournages, je vais changer de couleur.
OK, vous avez passé du rose au rouge.
Oui, exactement.
Ah, ça va être magnifique.
Mais je pratique mes techniques de camouflage en faisant ça.
On fait une pause et on revient avec le jeu questionnaire et la fin de l'émission. Thank you. Maxime D. Pomerleau. Alors, on est rendu au questionnaire. Quelles sont vos personnes qui vous ont inspiré?
Moi, je prends mon inspiration dans le quotidien. Donc, c'est les gens que je côtoie dans le quotidien, mes amis, ma famille, les artistes avec qui je travaille. Moi, les gens qui m'inspirent, c'est ceux qui sortent de leur zone de confort, qui prennent des risques. Et j'essaie de faire pareil, en fait. J'essaie de m'en inspirer. Donc, j'ai pas de nom précis, mais c'est vraiment...
Mais vous avez plusieurs noms en tête. Les livres que vous nous recommandez.
Les livres, et ça, c'est vraiment difficile, en plus. Je suis une grande lectrice, mais beaucoup plus de trucs de nouvelles ou de papier, de journaux, en fait. Je lis beaucoup de journaux et de magazines. Mais un livre qui m'a vraiment marqué dans ma vie, c'est « Ensemble, c'est tout » de Anna Gavalda. Et j'aimerais ne jamais avoir lu ce livre pour pouvoir le lire une première fois. C'est vraiment bon. C'est un excellent livre.
Alors, on va le mettre sur notre site Internet. Les artistes, vos artistes préférés, vos artistes que vous admirez, vous accompagnent, qui sont dans votre vie, vous vous dites « Ah, cette personne incroyable ».
Oui, il y a énormément de gens. Ça serait très difficile d'en nommer, mais sinon, je peux quand même nommer plusieurs personnalités publiques qui m'inspirent beaucoup.
Allez-y.
Marie-France Bazot, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a de la gueule, puis elle sort des sentiers battus. J'aime vraiment son style d'intervieweuse. C'est un exemple pour moi. Patrick Lagacé, c'est un exemple de journalisme aussi pour moi. C'est vraiment quelque chose. J'aime ses papiers. Foglia, j'adore son écriture. J'aimerais ça un jour me rendre à son niveau. C'est exceptionnel et presque inatteignable. Des cinéastes, Anaïs Barbeau-Lavalette, avec qui j'ai travaillé. Je suis contente d'avoir pu travailler avec elle.
On n'en a pas parlé de votre film, là.
Non. Mais
ça prendrait une autre heure.
Mais voilà, mais je suis contente d'avoir croisé son chemin. C'est quelqu'un que je regardais la carrière et le travail depuis longtemps. J'aime sa signature. J'aime les artistes, en fait, c'est ce à quoi j'aspire, si on veut, dans les prochaines années, pouvoir développer ma propre signature d'artiste aussi. Donc, dans les différents projets que je vais faire, même si je suis au service de gens, comme interprète à la danse ou au cinéma, ça soit qu'il y ait quelque chose qui me ressemble dans chaque projet quand même et que ça soit différent.
Donc, on peut voir votre film, là.
Oui, il fait la tournée des festivals,
c'est
en fait.
C'est ça, exactement. C'est bien. Ouais. On en parle, on en profite. Et vos villes préférées?
Ville, Montréal, honnêtement, c'est cool. Je trouve que c'est une ville où beaucoup de choses sont possibles malgré malgré mes critiques sur un paquet de points à arranger, mais la scène culturelle est incroyable. Je trouve qu'on fait encore une erreur de ne pas encore considérer le milieu culturel comme un secteur économique très, très fort, autrement qu'identitaire. Mais Montréal, sinon San Francisco, New Orleans, c'est des villes que j'ai adoré visiter.
Merci beaucoup, Maxime D. Pomerleau. Merci à mon équipe, Jean-Sébastien Laliberté, réalisateur de l'émission, et Christiane Campagna et Claudia Benoît. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bye-bye.